Jean-Claude Berruti, nous nous étions rencontrés la saison dernière et vous étiez présent à l'Opéra d'Avignon avec Richard Strauss et le Chevalier à la Rose. Et vous revenez cette saison toujours à l'Opéra d'Avignon avec un grand classique de l'opéra italien, la Tosca, Tosca de Puccini. L'année dernière, lors de notre premier entretien, vous aviez établi les parallèles qui existaient entre le livret du Chevalier à la Rose et le théâtre de Molière. Tosca, en fait, est tiré d'une pièce de théâtre, Victorien Sardou. Alors, quel est l'avis de l'homme de théâtre, Jean-Claude Berruti, sur la pièce de Sardou ?
Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. La pièce est formidable.
Elle est rarement montée.
Oui, c'est pas du tout à la mode. Mais c'est un modèle évidemment de pièces bien faites, ce qu'on appelait des pièces bien faites, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Les conditions de la création, c'est qu'il faut une pièce à succès pour Sarah Bernhardt. Donc Sardou essaie de renouveler et de voir ce qu'une actrice au plus haut de ses moyens peut produire. Il a comme idée très très simple, c'est l'histoire d'une actrice. Et c'est l'histoire d'une actrice qui est poussée dans ses retranchements les plus intimes. Et ce qui amuse évidemment Sardou et qui probablement a amusé beaucoup Sarah Bernhardt, c'est de voir à quel moment et comment l'actrice devient tragédienne malgré elle. Alors pour que ce soit possible, Sardou fabrique des séries de situations relativement invraisemblables et pourtant possibles, puisque la pièce se déroule en une journée vers 10h le matin et ça se termine au petit jour le lendemain matin. Voilà. Et cette actrice qui a tout pour être heureuse au premier acte, elle estime qu'elle a été trahie par son amant, premier acte, donc ça c'est déjà pas mal pour la comédienne qui doit jouer l'actrice. Au deuxième acte, elle est confrontée à ce qu'on appellerait aujourd'hui un harcèlement sexuel, en pensant sauver celui dont elle doute depuis le premier acte, elle assassine son harceleur. Donc voilà qu'une femme jalouse devient au deuxième acte une meurtrière, c'est déjà pas mal. Elle est prise au troisième acte dans une machination absolument théâtrale, puisqu'elle assiste au meurtre de son fiancé dont elle peut penser qu'il l'a trahi. Et c'est théâtral parce qu'elle est convaincue, c'est l'accord qu'elle a eu avec celui qu'elle a tué, qui est, on va dire, chef de la police romaine. Elle assiste à ce vrai faux meurtre. Elle est sûre que son amant va être sauvé, évidemment. Elle est prise au piège. L'amant n'est pas sauvé et elle se suicide. Tout ça en à peine 24 heures, c'est pas mal. Voilà, ça c'était le pari de Sardou. On sait peu de choses sur l'interprétation de Sarah Bernhardt. Il y a quelques photos qui sont assez belles, cela dit. Il y a quelques photos posées, mais on peut imaginer comment la comédienne qu'elle est a lié une espèce de fraîcheur, elle est plutôt jeune, mais on arrive à y croire, avec des moments où elle est dépassée par son propre destin. Alors, il y a encore un élément qu'il faut peut-être dire, c'est que derrière Sardou, et ça on ne le remarque pas, et c'est un peu dommage, derrière Sardou, il y a la manière dont les Français ont regardé l'Italie du début du 19e siècle. Donc il y a Stendhal, il y a la Chartreuse de Parme. Pas tellement derrière Tosca, mais en tout cas derrière les deux autres personnages, on sent que Stendhal n'est pas loin. Voilà pour Sardou. Le compositeur Giacomo Puccini est toujours à la recherche de pièces à succès. C'est une manière comme une autre de travailler, on ne va pas lui en vouloir. En plus, il ne s'est pas trop trompé. Donc au moment où il va s'intéresser à Tosca, il s'intéresse à tout à fait autre chose. C'est intéressant pour l'histoire de la musique, d'une certaine façon. Il s'intéresse à Péléas et Mélisande de Maeterlinck. Il sait que ça a été un énorme succès à Paris. Je ne pourrais pas assurer qu'il l'ait vu. En tout cas, il demande les droits. Et puis, le hasard fait les choses différemment. Sarah Bernhardt vient en tournée avec Tosca à Milan. Là, ça devient très intéressant. Parce qu'il voit la pièce un premier soir, il retourne le lendemain. Et il décide d'en faire un opéra. Alors, à plus d'un titre, c'est curieux parce que l'idée de faire un opéra de Tosca fait qu'il change tout à fait son point de vue dramatique de compositeur sur les femmes. Jusqu'à présent, on a eu les femmes victimes. Et d'un coup, à partir de Tosca, évidemment, elle est victime, mais c'est un sacré caractère. Puis après Tosca, on va voir la Fanciulla dell'Ouest. Et puis derrière la Fanciulla dell'Ouest, on va voir tout en d'autres. Donc il y a vraiment un choix très intime sur la manière de traiter, on va dire, les protagonistes féminines. Et puis surtout, et ça c'est unique dans l'histoire de l'opéra, quand il commence à composer, il a quand même entendu deux fois un monstre sacré. Alors il l'a entendu en français, qui est une langue qu'il maîtrise plus ou moins, mais quand même il a entendu et vu le monstre en action. Et donc on ne peut pas ne pas penser que ça l'a inspiré. Et qu'une des difficultés du rôle, elle réside peut-être là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'actrice dépasse le personnage, ce qui rend le personnage encore plus excessif. Et ça, c'est très, très important. Donc, il faut avoir une sacrée actrice. Alors, vous allez me demander si je l'ai, mais ça, on y viendra après. En tout cas, ça, c'est la base sur laquelle il se met à composer. Puis après, son éditeur lui-même s'étonne qu'il ait envie de composer sur une pièce qui n'est que violence, alors qu'il est considéré comme le compositeur du sentiment, des passions. Et ça, c'est son challenge intérieur d'arriver à être à la hauteur du scénario de Sardou. Comme vous l'avez compris, le scénario de Sardou, il fait tout pour que la comédienne puisse renouveler son jeu à peu près toutes les 5 répliques. Et puis, comme vous le savez, quand on écrit un livret, on est obligé de condenser une pièce. Simplement parce que la musique prend de la place, plus que la parole, et le chant prend de la place. Et donc, en condensant la pièce, et ça, peut-être que Puccini n'en est pas tout à fait conscient, il crée le premier opéra, j'ai envie de dire, policier, de l'histoire de la musique, puisqu'il y a évidemment une intrigue policière, mais surtout parce qu'il n'y a pas 3 minutes où il ne se passe pas une chose importante qui renouvelle la manière dont les 3 protagonistes doivent jouer.
Vous parlez d'une intrigue policière où il se passe toujours quelque chose, et dans votre note d'intention, alors vous parlez de Rome, on va en parler de Rome, puis vous parlez du rythme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va avoir quelque chose de carrément survolté sur le plateau.
Oui, c'est haletant. C'est-à-dire que d'abord, elle court. Elle passe en train à courir, elle court pour venir à l'église depuis chez elle. Après, elle rentre chez elle et puis elle revient quasiment en courant dans l'église. Premier acte. Deuxième acte, après le concert, elle court pour rejoindre Scarpia dans le palais Farnèse. Là, elle court beaucoup pour le fuir. Et puis, troisième acte, depuis le palais Farnèse où elle assassine Scarpia, elle court jusqu'au palais Saint-Ange, elle retraverse Rome, elle monte, elle est tout le temps en train de courir, et quand elle ne peut plus courir, elle se jette dans le vide. C'est pour ça qu'il faut parler de rythme. Et puis, je n'ai pas encore mentionné, mais il faut peut-être dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pièces de théâtre, en tout cas à l'époque, c'est-à-dire avant 1900, qui se passe un jour précis. Hein. Ça se passe probablement le 15 ou le 16 juin 1800, puisque au cœur de tout ça, il y a la bataille de Marengo. Et si je soulève ça, c'est parce que Sardou s'amuse à donner des fausses informations sur ce qui s'est passé à Marengo. Bon, je ne vais pas rappeler la situation historique, ce serait un peu trop long, mais en tout cas, il y a une fausse annonce de la victoire des troupes, et c'est difficile de dire italienne parce qu'il n'y a pas d'Italie, des troupes vaticanes et alliées au premier acte. Ce qui justifie la jubilation du sacristain, de tout le personnel de l'église, et qui justifie que le premier acte se termine avec un tédéum. On est censé fêter la victoire de Marengo. Au deuxième acte, alors qu'on a déjà torturé Cavaradossi, qui est l'amant de Tosca, je ne l'ai pas dit, mais bon, on peut s'en douter, alors qu'il est déjà torturé, contre-information, les sbires de Scarpia viennent annoncer que finalement, ce ne sont pas les alliés du Vatican qui ont gagné la bataille de Marengo, mais c'est cette espèce de Bonaparte. Cavaradossi est bonapartiste, et bien sûr, toute l'équipe de Scarpia, qui sont des réactionnaires patentés, n'ont plus qu'une chose à faire, c'est faire leur valise. Alors, ils ne vont pas les faire tout de suite, leur valise, mais quand même, ça fait monter le stress du côté de Scarpia. Ça, c'est des éléments dramatiques, incontournables, qui font qu'en effet, tout est vitesse.
Là, nous sommes dans la fosse d'orchestre pour enregistrer cette interview. Et en face de nous, y a une image géante. Qu'est-ce que ça représente, cette image? Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai entrevu lors de répétitions la semaine dernière, il y a beaucoup d'images de Rome qui sont projetées.
Oui, alors, il n'y a pas de décor construit. Comme vous voyez, il y a une colonne construite et puis il y a une trappe. L'élément de théâtre de base, il y a un escalier qui descend dans les dessous. Tout le reste, ce sont des images. Le premier acte se passe à Santa Maria delle Valle. Et ça, il faut dire que c'est une précision de Puccini, parce que chez Sardou, c'est dans une église romaine. Puccini, qui connaissait bien Rome, il a assisté. Donc, premier acte, Santa Maria delle Valle. Et on va dire que le mouvement des images qui ont été enregistrées, notre vidéaste, qui est Julien Soulier, les images racontent ou accompagnent, on va dire, les sentiments, surtout de Tosca. Deuxième acte, on est dans le palais Farnèse, vous l'avez là. Et alors là, ce n'est pas Julien Soulier, c'est une amie à moi qui est arrivée à pénétrer, grâce à des sauf-conduits, dans l'ambassade de France, puisque le palais Farnèse, c'est l'ambassade de France, et qui a filmé sous contrôle policier. Elle n'avait pas beaucoup de temps. Tu nous montres le mouvement, Julien ? Je voudrais montrer à M. Flandrin le mouvement. Voilà, et qu'il a filmé d'abord en plan fixe, puis après qu'il a filmé, parce que ça c'est rajouté par Julien, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour entendre le concert de Tosca, et puis après, notre ami l'a filmé à 360 degrés. C'est-à-dire que pendant l'ère Vici d'Arte, qui est le seul endroit où il n'y a pas de mouvement, ben, il y a du mouvement sur le plateau parce que la caméra tourne. Voilà, la caméra accompagne le vertige de Tosca.
J'ai l'impression que les personnages, en fait, ils vont être dans des tableaux. Ça va être très, très pictural.
Non oui, 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 c'est un peu l'objectif, c'est de faire des tableaux. Comme il y a de la peinture déjà partout, je n'avais pas vraiment le choix. Donc, beaucoup de lumière latérale, des plans lumineux, on fait des tableaux. Mais à l'opéra, on aime bien faire des tableaux. À part que là, on fait des tableaux extrêmement classiques, je dois le dire, avec de la technologie contemporaine. Je rajoute peut-être extrêmement classique parce que transposer cette pièce-là en particulier, il n'y a aucun intérêt. Ça se passe un jour précis. Ce n'est pas parce que ce sera en 1940 et qu'on racontera que c'est un gouvernement fasciste qu'on changera les choses à la pièce. Donc j'ai monté la pièce le plus possible telle qu'elle est. Voilà.
Là, vous m'avez parlé de Tosca, vous avez abordé l'interprète de Tosca. C'est Alfred Hitchcock qui disait que pour qu'un film soit réussi, il fallait que le méchant soit réussi. Et dans Tosca, il y a quand même un méchant d'anthologie. L'un des méchants les plus méchants de l'art lyrique, c'est Scarpia. Alors, est-ce que vous avez des Scarpia et des Tosca qui sont au niveau de leurs personnages ?
J'ai un Scarpia, c'est sa prise de rôle, et je m'avance, mais c'est de la carrure de Baquier, de la carrure de Fondari, c'est ce genre d'animal de scène. Donc ça, c'est formidable, évidemment. C'est
Fondari, en plus, il était costaud.
Voilà, mais celui-là, il est très, très costaud. Voilà. Mais la manière dont il le travaille, parce que quand j'étais jeune assistant à la Monnaie, j'ai fait répéter Baquier, et ça fait plutôt penser à Baquier. Parce qu'il est en même temps assez subtil, mais c'est un personnage incroyable. Parce que, bon, derrière le personnage, il y a une autre pièce. Et ça, c'est pas dans la pièce de Sardou, mais c'est dans l'opéra. En plus, il le cite, les librettistes de Puccini, qui sont loin d'être des mauvais écrivains. Il cite Iago, donc il y a le modèle de Iago derrière. Et lui-même, Scarpia, cite Iago comme modèle en se voulant être un super Iago. Iago étant le personnage du méchant dans Othello, il faut peut-être le rappeler, qui utilise la jalousie pour arriver à ses fins meurtrières, on va dire. Mais chez Iago, on ne peut pas dire qu'il y ait harcèlement sexuel, alors que là, on est devant un cas de harcèlement et qui est un abus de pouvoir, évidemment, puisque Scarpia est chef de la police, craint dans tout Rome, et il profite de sa position de chef de police pour abuser les femmes. Et puis, il y a un autre personnage encore derrière, parce que, bon, Sardou, il connaissait bien sa dramaturgie. C'est un bigot, donc il y a Tartuffe, hein. Il y a toute une part Tartuffe.
Qui est déjà présent dans Le Chevalier à la Rose, d'ailleurs.
Qui est déjà présent dans Le Chevalier à la Rose, voilà. Donc c'est un peu Molière.
Enfin, c'est très d'actualité, finalement, parce que bon, la jalousie, bon, c'est intemporel, mais par exemple, la torture, l'oppression, par les temps qui courent, par rapport à ce qui se trame autour de nous, ça prend une dimension quand même très, très moderne.
Et malheureusement, ça a toujours été moderne.
Là, c'est très crucial.
Oui, oui, c'est même assez fondamental, mais je n'ai pas eu envie de moderniser quoi que ce soit. Mm-hmm. Pour les raisons que j'ai expliquées, c'est que c'est difficile de faire Tosca autrement que dans son jus.
Ce qu'il y a de particulier et de formidable aussi dans Tosca, c'est qu'il y a des airs qui sont passés dans la mémoire populaire. Je pense à Vici d'Arte, et notamment par Callas interposé. Alors en tant que metteur en scène, comment on aborde ce moment? Parce que finalement, les spectateurs, ils attendent quand même un peu ce moment. Pas un tableau ou une séquence comme les autres.
C'est certainement pas une séquence comme les autres, mais le génie de Puccini qui a hésité à le garder, et il l'a rajouté, il a eu des soucis entre lui et lui sur cette question de Vici d'Arte. Ce qui est vraiment de l'ordre du génie, c'est qu'il arrive à le placer à un moment d'apnée dramatique où on a besoin de souffler dans la salle, et elle, là, sur le plateau, enfin, le personnage a besoin de souffler, donc c'est presque naturel qu'il la fasse souffler en lui faisant chanter une chose redoutablement difficile. Hein, parce que la grande difficulté, c'est que, comment le dire simplement, elle passe son temps à hurler dans le deuxième acte, et puis d'un coup, il faut qu'elle ait la voix la plus douce dans la respiration la plus large.
Un mot sur votre Tosca.
Alors, on se connaît bien, elle s'appelle Barbara Havemann. On a travaillé ensemble il y a 18 ans, c'est-à-dire que c'était une toute jeune chanteuse. On a fait ensemble un opéra de Zemlinsky qui s'appelle Le Roi Candole à Nancy et à Liège. Voilà, aujourd'hui, c'est une chanteuse en pleine maturité. Elle vient de Hollande. C'est une voix très italienne, mais elle a ce qu'il faut de coffre. C'est toute la difficulté de Tosca, c'est qu'en même temps, il faut une couleur, on va dire italienne, mais il faut une puissance terrible depuis les premiers Mario qu'elle lance en coulisses jusqu'à la fin, c'est absolument redoutable. Donc c'est une chanteuse italienne avec des possibilités, on va dire, tristanesques, puisqu'elle a chanté Isolde.